me connaîtront pas. Pour faire simple et synthétique sur mon parcours, moi j'ai grandi dans une petite ville de province, j'ai fait des études somme toute classiques. J'étais en sport études, art du cirque et danse, et ça m'a amené à rencontrer beaucoup de personnes, dont une personne en particulier qui m'a repérée pour faire du mannequinat. Donc j'avais 15 ans à l'époque, c'était assez nouveau, ma famille ne connaissait pas du tout cet univers, donc il y avait beaucoup d'appréhension, il y avait beaucoup de peur, c'était un peu se lancer dans le grand bain. Mais pour autant, j'avais toujours en tête de faire ce que vraiment j'avais envie de faire et de ne pas m'attacher à des choses qui ne me ressemblaient pas. Raison pour laquelle, par exemple, j'ai refusé d'être en agence, j'ai toujours travaillé seule et pour moi-même. En parallèle de ça, j'ai quand même été le petit modèle de la société en allant faire des études de commerce, en s'investissant dans ce qu'on pourrait appeler le schéma classique que j'ai déconstruit plus tard. Schéma classique dans lequel, donc après un master en management, j'ai eu un poste de responsable de secteur, raison pour laquelle vous êtes dans mes locaux aujourd'hui.
Magnifique.
Et puis les réseaux sociaux sont arrivés au moment du confinement. En fait, j'étais déjà dessus, c'était quelque chose qui me plaisait, particulièrement Instagram, parce que vous avez cette possibilité de ne pas me montrer vraiment pour qui j'étais, mais plutôt pour le paraître. On pouvait mettre un peu les photos qu'on voulait, le lifestyle qu'on voulait, et finalement on était un petit peu qui on voulait à cette époque-là sur les réseaux. Donc j'ai aimé ce phénomène-là. Et puis en confinement, ça a pris de l'ampleur parce que je me suis retrouvée, entre guillemets, sans travail puisque tout le monde était confiné et bloqué. Et hyperactif que j'étais, toujours en train de penser à des choses et à créer, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai développé les réseaux sociaux, j'ai formé aujourd'hui plus de 550 personnes sur les réseaux à en vivre. Et je leur ai apporté pas seulement des clés de comment vivre sur les réseaux ou comment travailler, mais aussi des clés d'état d'esprit et ce que j'appelle moi de mindset. Donc aujourd'hui, je me définis un peu comme une mindseteuse, donc quelqu'un qui va aider vraiment dans le positif à changer des vies, mais surtout changer des états d'esprit, à déconstruire des schémas qu'on connaît, et notamment ce schéma de études, travail, vie de famille, crédit, etc., qui en fait n'apporte pas forcément un bonheur et une satisfaction, puisqu'on se rend compte que plus on évolue dans la vie et plus finalement nos besoins aussi, nos envies évoluent, donc ils sont plus grands, nos salaires ou en tout cas notre rythme de vie n'est pas correspondant et finalement on s'appauvrit et finalement on n'est pas plus heureux. Et c'est aussi ce que j'apprends aux gens, qu'il y a d'autres voies, qu'il y a la voie évidemment du risque, la voie d'entrepreneuriat, mais que cette voie-là on peut aussi la faire avec confiance et vaincre un petit peu ce sentiment d'insécurité. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je partage au quotidien sur les réseaux, ce qui fait de moi, entre guillemets, une influenceuse, avec des partenariats à côté, avec de nombreuses marques connues dans la cosmétique, dans le cinéma, enfin voilà, pas mal de choses autour de la vidéo, de la publicité, notamment avec des plateformes aussi d'e-commerce sur lesquelles je fais présentatrice de produits, enfin voilà, c'est vraiment plein d'opportunités qui en ont amené d'autres, de par le mannequinat et de par tout ce qui se passe à travers les réseaux.
On va reparler de tout cela, Philippe Denis. Merci de nous avoir tracé votre parcours. Peut-être là, l'interview va se construire en trois points. Je commencerai tout d'abord par le mannequinat. Vous êtes mannequin. Quelle définition donnez-vous du mannequinat? Qu'est-ce qu'être mannequin? Qu'est-ce que mannequin?
Alors l'image traditionnelle, en tout cas, on peut voir le mannequinat sur plusieurs angles. Si on le voit du point de vue des marques, des recruteurs, des casteurs, l'idée c'est de pouvoir mettre en valeur le vêtement, donc c'est vraiment s'effacer soi-même pour faire ressortir le vêtement. Donc je dirais presque, et c'est paradoxal, le but c'est d'être la moins jolie possible, la moins éclatante possible. En général, on ne prend pas forcément des visages qui sont les plus... entre guillemets, hein, conforme aux dictats de la société. On va prendre des visages un petit peu différents, des mâchoires un petit peu carrées, justement pour qu'on oublie un petit peu la personne et qu'on mette plutôt en valeur le vêtement. Donc il y a ce sentiment qui est un petit peu étrange. Et du point de vue du mannequin, l'idée c'est d'avoir toujours les meilleurs contrats et d'être prise par les plus grandes marques pour pouvoir évoluer. Après, le mannequinat se découpe en plein de façons. On a toute la partie juste photo, shooting photo. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. On a toute la partie concours casting, c'est ce que j'ai été amenée à faire aussi et c'est ce qui finalement me ressemblait le moins parce que pour le coup sur des concours on est uniquement là pour le physique mais on a rien d'autre que l'on peut exprimer. Et puis il y a la partie défilé et après il y a plein de petits métiers annexes de publicité ou autres qui peuvent se greffer. Donc tout est assez intéressant Mais ce qui me freinait dans le mannequinat, et raison pour laquelle c'est pas mon métier essentiel, ou c'est pas en tout cas l'unique chose que je fais, c'est que justement j'avais du mal à pouvoir exprimer aussi autre chose, qu'est-ce que je pouvais apporter aux gens en faisant du mannequinat, finalement pas grand chose. Quel était le message que je livrais à la jeunesse, soyez comme moi, faites une taille 36, et puis ça donnait des messages parfois indélicats et qui sont pas justes. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, quand je me suis lancée au mannequinat, qui pensaient que je ne mangeais pas ou que je mangeais plus, ou que toute ma vie, bah oui, elle avait pas mangé cette fille, alors très bien. Et c'était tellement faux, c'était ma morphologie, et je mangeais pourtant beaucoup. Et justement, quand j'étais confrontée à des agences ou à des contrats sur lesquels on me disait « Ah, mais là, t'as 1 ou 2 cm de trop en hanche, ah, mais là, etc. » Je disais « Ah, très bien, mais moi, je viens pas alors. » Parce que je veux pas changer qui je suis, et si ça te convient pas, je vais pas changer pour entrer dans une norme d'un centimètre, c'est ridicule, 1 cm. Et j'avais vraiment cette envie-là. Et aujourd'hui, le mannequinat, je me rends compte de plus en plus, il privilégie quand même aussi la personnalité. J'arrive dans beaucoup de concours, de casting, où c'est la personnalité qui va faire la différence. L'idée que la personne soit sympa avec les équipes, agréable, qu'elle ait dit bonjour, qu'elle se soit intéressée un petit peu aux personnes qui la castent, ça fait souvent la différence. Et je le vois de plus en plus dans des jobs que je peux avoir en mannequin cabine, en défilé ou autre, où les gens vont me rappeler parce qu'ils vont me dire « Ah, mais en fait, cette fille-là, elle était sympa, quoi. Elle était accessible, elle s'est pas prise pour une star. » Et ça, c'est quand même aussi appréciable. Donc, quand même, sur le mannequinat, on s'intéresse un peu à la personnalité, mais voilà, ça reste aussi quand même très image.
Non, c'est intéressant parce qu'il y a deux questions qui surgissent dans ce que vous dites, Ophélie Denis. La première, c'est quelle définition donnez-vous de la beauté? Parce qu'on on ne parle jamais de mannequinat, de mannequin sans beauté. Selon vous, la beauté est-elle subjective ou objective ?
Vaste question. Moi, je pense qu'elle est subjective et qu'elle appartient à chacun. Il y a plein de... Par exemple, il y a plein de personnes qu'on trouve pas forcément belles au premier abord. Et puis, plus on les rencontre, on le sait, hein, plus on les connaît, plus on s'intéresse à qui elles sont et plus on voit qu'elles ont une bonne âme, on va les trouver belles et la beauté va prendre notre définition. On le voit notamment dans l'art, tout ce qui, tous les tableaux, toutes les sculptures que plein de personnes vont trouver moches, d'autres vont trouver belles. Donc on voit bien qu'il y a un côté très subjectif. Par contre, dans le mannequinat, et c'est toute la difficulté, la beauté est censée être objective puisqu'elle répond à des centimètres, à des dictates, à des tailles, à des formes. Et en même temps, cette beauté évolue. La beauté de 2010 et la beauté de 2020 n'est pas la même. Donc...
C'est intéressant ce que vous dites, cependant je voudrais vous poser une question un peu provocante sous la plume du philosophe Jean Baudrillard. Mm-hmm. Et voilà ce qu'il souligne, la misère du monde est tout aussi visible dans la ligne et le visage d'un mannequin que dans le corps squelettique d'un Africain. La même cruauté se lit partout si on sait le voir, si on sait la voir. Ma question est la suivante, Ophélie Denis, finalement... Dans le visage d'un mannequin, dans le corps d'un mannequin, le mannequin en lui-même, ne cache-t-il pas la misère du monde? C'est-à-dire devant la beauté que nous voyons, n'y a-t-il pas toute une misère qui est derrière et que l'on veut cacher volontairement?
Oui, c'est vrai, surtout si on parle par exemple de mannequins prêts à porter, on sait qu'elles vont représenter des vêtements... des vêtements de luxe, alors on va peut-être pas parler des marques de luxe parce qu'il y a beaucoup de marques de luxe, notamment les marques de luxe françaises produisent en France, donc c'est un peu différent, mais on peut imaginer en tout cas qu'une grande partie des tissus vient du tiers-monde et puis que beaucoup de grandes marques et de grandes enseignes qu'on connaît, même pas que dans les vêtements, on peut parler des téléphones, on peut parler de tout, de toute l'actualité et ce qu'on suit provient de la misère du monde, et donc ça peut être aussi le reflet de cette souffrance. C'est vrai, est-ce qu'on doit tirer la sonnette d'alarme sur la mannequin qui finalement cautionne ou sur le dictat de la mode, c'est une vraie question. Est-ce que les mannequins elles-mêmes ne sont pas dans une certaine souffrance? Moi, la plupart des personnes que j'ai vues n'étaient pas heureuses.
Pourquoi? C'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elles donnent l'image d'être heureuses en faisant de défis quand on les voit défiler, etc.
Bah, en fait, j'ai eu l'impression que déjà, en tant que mannequin, on encaisse beaucoup. Enfin, la personne que j'étais il y a 10 ans et la personne d'aujourd'hui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avancer sur l'acceptation, se détacher du jugement des autres. C'est un travail qui est long, qui est fastidieux. On en prend vraiment dans la gueule tous les jours et il y a d'une part cette notion parfois d'être juste un objet, d'être là pour une raison et donc quand la personne s'adresse à vous, elle ne vous adresse même pas à vous comme si vous étiez un humain, donc il y a quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer. Et puis ensuite il y a toute cette pression toujours du poids, d'être beau, Par exemple, je vais vous faire rire, mais un jour j'arrive à un casting et en fait la veille, je suis très sensible, donc j'ai une allergie du visage et je me dis mais comment je vais y aller, et j'arrive là-bas, tout le monde rigole et donc bah, forcément le casting est perdu. Et là, bon, ça me fait rire, mais il y a des personnes qui vivent de ça, c'est leur unique source de revenus, donc elles arrivent, là elles sont bloquées une semaine et donc il y a une souffrance interne du jugement des autres. Et puis il y a quelque chose de plus profond, c'est que souvent le mannequinat, le fait de s'être mise en avant et d'être surtout sur du paraître, c'est qu'on n'ose pas se révéler à soi-même qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on est au-delà de son image, qu'est-ce qu'on va aller délivrer comme message, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que par son corps. Et cette chose-là, je crois que c'est, ça va être dur à avoir pour certaines mannequins, mais c'est vrai, c'est des choses qu'elles ont du mal à aller au-dessus, et en fait ça révèle un grand manque de confiance en soi, mais aussi de ne pas avoir pris le temps de se connaître et de se chercher, de savoir qui on est et ce qu'on veut faire.
C'est hyper intéressant ce que vous dites, et vous venez de donner, de dire deux mots qui sont les contenus, le contenu de ma question, qui est la suivante. Finalement, quand vous défilez pour des marques, ou que vous êtes une ambassadrice des marques finalement, est-ce que vous êtes ou est-ce que vous paraissez? Le mannequin est-il ou paraît-il? Selon vous,
difficile,
pour vous.
Difficile à dire. Il y a des grands mannequins qu'on ne file plus. Si on prend une Naomi par exemple, on voit bien qu'elle ne paraît pas. Il y a des gens pour qui le mannequinat c'était une vraie révélation, c'était leur façon d'être, pas de paraître. Je pense que ça c'est réel et ça se voit, et je pense que c'est aussi dans les plus grandes icônes qu'on connaît. Maintenant, un défilé, on peut le prendre de plein de façons. Ça peut être un jeu d'acteur où on monte sur scène et on est quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, parce que quand on défile, on a hyper confiance en soi, on a une démarche un peu provocante, on est une femme très séduisante, etc. C'est pas forcément qui on est dans la vie de tous les jours. Le défilé, ça peut aussi être le moyen justement d'être, parce qu'on peut justement par le geste, parce que là on a un corps en mouvement, donc on peut exprimer beaucoup plus de choses. Moi qui viens du cirque, je sais qu'on peut du coup montrer des choses différentes. Et puis en même temps, on peut juste paraître, parce que si on travaille pour un défilé d'une grande maison, en fait on doit défiler comme ci, comme ça, pas bouger le bras de plus de 1 cm, et donc finalement on est personne, on paraît juste.
Non mais c'est intéressant, vous donnez un exemple d'un défilé où voilà, il faut être vraiment dans les clous. Finalement, quelle est la part de liberté quand vous défilez?
Non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas?
Non.
Et comment le vivez-vous? Parce que finalement, vous êtes cloisonné, vous êtes emprisonné.
Oui, il y a vraiment un sentiment d'emprisonnement. Maintenant, je ne peux pas me plaindre de ce métier, parce que quand on défile, quand on fait deux défiles dans une journée et que pour certains ça représente 10 jours de travail, d'un travail difficile, moi j'ai conscience de tout ça. Donc je me dis ça va en fait. Mais par contre, oui, si on prend l'aspect psychologique, c'est un emprisonnement. D'abord parce qu'on arrive très tôt le matin, on part très tard le soir et toute la journée on est tiré à quatre épingles, on nous fait les cheveux, le visage, donc au final on ressemble presque plus vraiment à qui on est. Ensuite on doit défiler d'une certaine façon, on rentre, on est avec des personnes qui malheureusement seront jamais des amis parce que ça reste des rivales, et qui en plus en général sont entre guillemets des bons petits soldats. Elles ont été tellement bien formatées qu'elles sont truc, et tout le discours qu'elles ont c'est tellement à l'opposé de, en général, de qui vous êtes ou de ce que vous aspirez à faire dans le mannequinat. Et donc voilà, vous finissez votre journée, il n'y a pas vraiment un sentiment de satisfaction. Moi je me rappelle avoir défilé à la Fashion Week de Paris, et pourtant c'était un accomplissement. Je me disais, ouais, toi Ophélie qui n'avait pas confiance en toi, qui était toujours la plus petite de ta classe, qui était toujours très mec, qu'on avait beaucoup critiqué, j'avais beaucoup empiété dans le mannequinat, je me suis dit, waouh, ça y est, c'est l'accomplissement. Et puis après avoir fait cette journée-là, après avoir passé l'euphorie, je ne sais pas si j'en retire vraiment un bénéfice. Je suis contente de l'avoir fait, mais je ne sais pas réellement ce que ça a dit à l'enfant de moi.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a à la fois une prise de recul et une profondeur dans vos mots. Ophélie Denis, je voudrais passer à la seconde partie de cette interview, savoir le côté de... Vous vous définissez comme influenceuse. Quelle est la première définition d'influenceuse, du mot influenceuse? Parce que en fait c'est un mot assez nouveau, assez contemporain. Donc, quelle est cette définition que vous donnez?
Pour moi, les influenceuses, donc on les a vues apparaître, on va dire, à partir des années 2013-2015.
C'est ça.
Ça naît à peu près dans ce mouvement-là. La vraie différence que ça apporte, c'est qu'on s'adresse, on parle de personnes qui ne sont pas connues, donc pas de médias classiques, de la télévision, qui ne sont pas reconnues pour des compétences traditionnelles, je dirais, donc le cinéma, la mode, l'art, etc. Et puis finalement, ces personnes arrivent à générer autour d'elles une espèce d'engouement, une communauté, des gens qui s'intéressent et qui vont suivre leur choix. Et puis donc ça attire des marques qui elles se disent, ah donc cette personne est bankable, je vais lui proposer des produits, elle va donc pouvoir les revendre, et cette personne devient un objet marketing. Ça, c'est la définition de base de l'influence. Maintenant, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, parce que influence, alors on peut le prendre d'un côté très positif, mais aussi très négatif. Je trouve que influencer les gens, c'est, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est les faire s'effacer de qui ils sont pour suivre un courant. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Moi, j'aime bien définir plutôt comme quelque chose d'inspirant. Je préfère inspirer les gens à penser quelque chose, à faire quelque chose, ça me paraît beaucoup plus positif que d'influencer. Mais en effet, le mot est influenceuse, et aujourd'hui, le travail d'influenceuse, qu'on soit très clair, c'est faire des stories, faire donc de la publicité vidéo et photo pour des marques, être rémunéré pour cela, et les personnes vont commander les produits qu'on présente.
Alors, vous avez donné deux définitions positives et négatives de l'influenceuse. Et quand on regarde dans le dictionnaire, je suis allé voir la définition même du dictionnaire, et il est marqué personne donc qui influence l'opinion, la consommation par son audience et les réseaux sociaux. C'est ce que vous avez dit. Cependant, il y a une troisième définition négative aussi dans le premier sens du terme d'influenceuse, c'est la manipulation.
Oui, je suis d'accord.
Et finalement, dans cette manipulation, n'y a-t-il pas un côté de malsain finalement?
Si, bien sûr, et puis je pense qu'on l'a vu dans les dérives, ça sort de plus en plus, alors que c'était pas trop à l'époque, parce que comme c'était un nouveau métier, on s'intéressait pas à ce qui était mal fait. Aujourd'hui, on voit les dérives, ce qui est mal fait, on voit des personnes qui vont promouvoir des marques qui finalement, du jour au lendemain, disparaissent de sites internet, et donc les gens se sont fait arnaquer, on voit beaucoup de choses, hein, des produits qui sont pas du tout viables, etc. Mais est-ce que ces personnes-là sont pas aussi prisonnières? Parce que moi, la question, elle est là, c'est que une fois qu'on a un contrat, alors on peut vérifier par A plus B la viabilité du produit, mais si on va un peu plus loin que ça, en fait, ça devient le métier de ces personnes-là. Donc c'est ce qui les nourrit, c'est ce qui fait qu'elles payent leur crédit, c'est ce qui fait... Et on retourne dans le système de formatage que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, oui, il y a un côté manipulateur malsain. En fait, c'est une autre forme de vente. C'est le même vendeur que vous avez qui vous harcèle dans les grands magasins de distribution pour vous vendre quelque chose. Vous avez un petit peu la même chose sur les réseaux sociaux. Donc de toute façon, la vente par définition n'est pas purement sincère. Je crois pas que la vente soit purement sincère. Donc je crois juste que c'est un autre métier, une autre façon de gagner sa vie. Est-ce qu'elle est positive? Je sais pas.
Non, c'est très intéressant parce que il y a quand même quelque chose. Vous venez de donner ce mot que vous avez utilisé tout à l'heure sur le mannequinat, c'est la liberté. Ouais. Mais finalement, est-ce que l'influenceuse que vous êtes n'est pas entre guillemets cet outil de non-liberté, d'emprisonnement? Parce que à la fois vous êtes emprisonné par les marques qui vous demandent, et d'une autre manière vous emprisonnez, vous manipulez entre guillemets les personnes qui vont acheter vos produits.
Alors, si je dois prendre à titre personnel, je crois pas le faire, même si je pense pas être différente des autres. Donc oui, je pense qu'on fait tout à un moment donné et par bien des façons. Je pense aussi que ça a beaucoup évolué. Je vois beaucoup d'influenceuses maintenant qui, même de plus en plus, surtout les très connues, qui refusent énormément de contrats, qui font vraiment que ce qui leur correspond et qui se développent surtout, pour elles, ça a été un outil marketing pour se développer dans autre chose. Créer un site web, écrire un livre. Voilà, elles recentralisent autour d'elles-mêmes et du message qu'elles veulent porter plus que de l'outil marketing. Et ça, on le voit de plus en plus et je trouve ça très très positif. Je pense le faire de moins en moins, mais je pense que j'ai été amenée à le faire aussi. Je me rappelle un jour, et je le dis sans problème, avoir fait gagner un voyage à Dubaï. Donc il y a beaucoup de gens qui ont joué, il y a eu énormément de euphorie autour de ça. En fait, je sais pas vraiment si ce voyage a été gagné, je sais pas vraiment s'il a été fait dans les normes, et je me dis tous ces gens qui ont joué, participé, qui ont cru dans ce message, et tout ça. Est-ce que vraiment derrière ils ont un retour sur investissement? Et ça, c'est juste un petit exemple, évidemment, on pourrait en prendre d'autres, et là ça n'implique pas d'argent, donc finalement c'est pas si grave. Mais pour beaucoup, ça implique de l'argent, hein, des achats de produits, des achats d'affiliation, etc. Donc je crois pas l'être, en tout cas de moins en moins, parce que encore une fois je refuse d'être en agence, donc je suis vraiment freelance, j'ai un manager qui suit toutes les demandes que je reçois et on trie et on fait un peu ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon. Mais je crois aussi que les marques ont leur part de responsabilité, beaucoup sont pas du tout fiables, j'ai été parfois très déçue de choses qu'on promet et puis en fait à l'arrivée c'est pas du tout ce qu'on espère. C'est un milieu complexe.
C'est un milieu très complexe. On ne parle pas d'influenceuse, d'influenceur sans... il me semble, sans le côté de la mode. Parce que finalement, vous mettez en avant des produits de mode. Quelle définition, Ophélie Denis, donnez-vous de la mode? Qu'est-ce que la mode? Et quelle est la place de l'influenceuse dans la mode? Donc tout d'abord, qu'est-ce que la mode?
Qu'est-ce que la mode? Ça, c'est une vraie question. C'est vrai que moi, je suis un peu anti-mode. Alors, c'est compliqué. Moi, je prends la mode après qu'elle soit lancée. Donc, pour moi, la mode, c'est un résumé des tendances que font un groupe d'humains et puis qui vont acclimater, qui peut passer par les vêtements, mais pas seulement. Mm-hmm. Qui vont aussi, pourquoi pas, être un lifestyle. On peut être à la mode d'être influenceuse et puis demain faire un autre métier de trading ou autre. Enfin, on voit beaucoup de choses évoluer. Donc la mode, on dirait que c'est quelque chose de passager qui peut regrouper un peu un groupe d'humains et tout un univers derrière. Moi, je suis toujours un peu à contre-courant. Quand il y a quelque chose qui sort en mode, en général, ma première réflexion, c'est de ne pas l'aimer. Et puis, en 2 ans après, je me mets à l'aimer, je le porte. Donc, je porte toujours avec décalage les choses. Je ne crois pas qu'il n'y ait que des influenceuses mode. Au contraire, je crois que ça a beaucoup... Ça a été, en fait, au début, toutes les influenceuses venaient forcément de la mode. D'accord. C'est parce qu'elles mettaient en avant des vêtements, des styles de vêtements qu'on ne voyait pas forcément, ou des associations, ce que ne font pas les mannequins. Les mannequins, elles répondent à ce qu'on leur demande de faire. Donc, elles pensent sur leur... Alors là, il y a une vraie volonté de choisir des vêtements et de se dire « Ok, c'est ça que je veux montrer à mon public. » Et le public est intéressé par ces vêtements et ça crée une communauté. On se dit « Cette fille est dans la tendance, cette fille répond au marché actuel, aux marques, elle va pouvoir me dire où trouver ce haut, où trouver ce bas. » Donc, c'était ça au départ. L'influence aujourd'hui, c'est beaucoup moins ça. Et on le voit là, de plus en plus par l'évolution de beaucoup de personnes qui n'auraient pas pensé être influenceuses. Je vois beaucoup de filles aujourd'hui qui ont des problèmes de peau, ou qui sont très fortes, ou qui ont beaucoup de rondeur, qui percent beaucoup sur les réseaux parce que les gens s'intéressent beaucoup plus, je pense, au message qu'à l'image. L'image, ils en ont partout, la publicité dans le métro, sur les réseaux, parce que maintenant, les réseaux sociaux sont sponsorisés, donc il y a beaucoup de pubs, ce qu'on n'avait pas avant. Donc finalement, on est oversaturé de toutes ces publicités. Donc tout ce qui est mode, je pense qu'on le voit, on le revoit, on le revoit. Évidemment, les influenceuses mode le sont restées et elles font aussi plein d'autres choses. Mais il y a une vraie émergence d'une influence différente qui est celle de porter des messages, de répondre à des angoisses de la jeunesse et ou des personnes en général. Voilà, c'est ce que je crois en tout cas.
Non, c'est intéressant, mais la mode, il y a un moment en tout cas dans l'histoire, on parlait de mode en la mettant en parallèle avec le luxe. Quelle différence? Déjà, quelle définition donnez-vous du luxe? Qu'est-ce que le luxe?
Alors, le luxe, moi, c'est vrai que j'ai fait mes études dans le luxe, donc c'est paradoxal. Mais le luxe, pour moi, c'est tout l'art de désirer ce qui est impossible.
Ah, c'est une belle définition.
C'est un peu ce que je crois. Et donc, j'ai aussi l'impression que quand on acquiert le luxe, on perd un petit peu de cette saveur, de quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir avant. Donc le luxe et la mode sont évidemment intimement liés, mais quand je vois des aficionados de grandes marques de luxe, je ne les vois pas plus heureux non plus, parce que je les vois acheter les vêtements, et puis finalement il y a cette lassitude constante. D'où le fait que la mode existe, pour pouvoir se renouveler, proposer des nouveaux produits, etc. Donc luxe et mode sont évidemment intrinsèquement liés, puisque c'est en plus le luxe qui donne la tendance pour toutes les autres marques de mode, qui vont copier et modifier légèrement et influencer la tendance. C'est intimement lié, mais c'est tout le paradoxe de l'éphémère. Et c'est aussi ce que nous reflètent les réseaux sociaux. Hein. Le but, c'est de proposer des contenus différents tous les jours ou toutes les semaines, et donc de changer de tenue de mode, de proposer un autre contenu mode et luxe. Et l'influence va de plus en plus vers le luxe, puisque les influenceurs aiment aussi montrer un lifestyle, un style de vie très luxueux. Donc ils vont vraiment se brander avec des marques, proposer non seulement des vêtements, mais aussi un intérieur avec des objets de luxe, des voitures de luxe, des voyages de luxe, et vraiment greffer tout le monde du luxe autour d'eux. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez fort qu'a fait l'univers du luxe, c'est de réussir à capter cette jeune génération qui, à la base, est à l'antipode des valeurs du luxe, qui vont être beaucoup plus classiques, sobres, on va pas trop s'exprimer, c'est un luxe discret, un peu le luxe qu'on connaissait, qui a été capté cette audience qui avait besoin d'exposer au contraire.
Oui, d'accord. Ophélie Denis, le temps passe trop vite malheureusement, mais très rapidement, la troisième partie de l'interview. Quand on évoque le mot d'influenceuse, on pense au côté financier, à l'argent. Et finalement, quelle est la place que l'argent, quel est le regard de l'argent sur votre travail? Dans le sens où on dit souvent que les influenceuses, les influenceurs gagnent énormément d'argent, voilà, sont avec des sponsors et ça. Quel est votre regard sur ce concept financier?
Donc ça reste un travail, hein, on est d'accord. C'est un travail qui est plus ou moins bien payé. Tout le monde n'en vit pas. Moi, si je devais faire que de l'influence aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui fonctionnerait. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai développé tout cet aspect formation, parce que ça, par contre, ça me permet vraiment d'en vivre. Donc il y a des influenceuses très très connues qui vont avoir des salaires bien plus importants que des politiques ou des personnes qui ont fait 10 ans d'études, et ça, on peut en discuter ultérieurement. Mais en tout cas, la valeur de l'argent est vraiment très différente. Je sais qu'il y a des contrats qui me prennent littéralement, hein, je ne vais pas mentir, littéralement une minute, et qui représentent 4 jours de travail pour quelqu'un.
Ah oui.
Et ça, j'en ai conscience, parce que j'ai été cette étudiante pauvre, j'ai été cette personne en galère, j'ai fait des jobs au SMIC, et donc tout ça, je me souviens et je me dis, waouh, tu te rends compte, t'es dans ton canapé, t'as fait quelque chose une minute et t'as gagné 4 jours de ce que tu faisais avant. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un peu choquant. Donc je pense que la notion à l'argent est complètement différente. On pense pas du tout, la valeur de 100 euros n'est pas du tout la valeur de 100 euros de quelqu'un qui va travailler une journée. Ouais. Je pense que c'est complètement différent. On ne peut pas l'imaginer comme ça parce qu'on pense aussi long terme. Est-ce que la marque va nous renouveler? Est-ce que ça va nous apporter une autre source financière après? Ou est-ce que c'est juste un one shot? Parce qu'il y a ça aussi, le fait d'avoir une source de revenus pérenne. Donc cette notion d'argent, je la vois complètement différemment. Je le vois pas en fait en euros, je sais pas comment vous l'expliquer. Quand il y a un contrat qui tombe, c'est pas des euros qu'on voit, c'est plutôt un chiffre d'affaires pour nous-mêmes, notre auto-entreprise, notre entreprise, mais c'est différent.
C'est différent en fait, donc vous avez un regard, c'est assez subjectif finalement ce regard que vous avez. Avant-dernière question, peut-être je voudrais citer Pierre Corneille qui dit « Dans le bonheur d'autrui, je cherche mon bonheur. » Ophélie Denis, avec tout ce que vous venez de nous dire, êtes-vous heureuse? Êtes-vous une femme heureuse aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui je le suis. Je le suis, mais parce que c'est la suite d'un long travail personnel, d'un long travail de genre personnel, d'un long travail d'acceptation. Et c'est pas les réseaux qui m'ont aidé à le faire. C'est en partie le mannequinat, en partie le sport, en partie des risques que j'ai pris, en partie le fait d'avoir formé autant de personnes et d'avoir vu des accomplissements où ça m'a permis de me dire « Ok, t'es à ta place, est-ce que t'as fait bien ?» Et finalement, t'as réussi à concilier le fait de faire du business et d'aider les autres. Donc je suis heureuse, mais parce que ça a été un long travail. Je suis pas heureuse comme ça. Ça a vraiment été long. Il y a eu beaucoup beaucoup de moments d'angoisse, de peur, de risque, de doute. C'est vraiment un long chemin. Mais je le suis parce que je crois profondément que je fais ce que je veux. En tout cas, j'essaye. Il y a toujours une part évidemment d'emprisonnement, mais j'essaye au maximum, d'avoir cette liberté. Et donc quand on est libre, je crois qu'on est foncièrement heureux.
Mais quelle définition donnez-vous du bonheur?
Ah, c'est dur, hein. Je crois que c'est juste trouver le plaisir dans des moments simples. Moi, aujourd'hui, je suis heureuse de pas être emprisonnée dans un travail où je dois passer plus de temps au travail qu'avec ma famille, où je dois passer plus de temps sur de la vie professionnelle que personnelle. Je crois avoir réussi à consacrer plus de temps à qui je veux être, le message que je veux délivrer, les personnes que je veux aider et comment je peux m'épanouir au quotidien dans des moments simples. Comme entendre le chant des oiseaux le matin, jusqu'à prendre 15 minutes pour méditer chaque jour. Tout ça, je crois que c'est des petits bonheurs accumulés qui font le bonheur global. Et puis même dans les jours où c'est pas le cas, où je suis pas heureuse, où je suis mécontente de moi, je trouve quand même une forme de gratitude à me dire ok, mais cette journée, tu l'acceptes et c'est ok. Et du coup, ça te permet demain de faire les choses différemment. Et donc, c'est ça.
Mais on voit que vous êtes heureuse et épanouie dans ce que vous faites. Ophélie Denis, pour les milliers d'étudiants qui nous regardent, première question, à quel endroit pouvons-nous vous retrouver? Donc, à la fois sur les réseaux, à la fois dans votre entreprise, dans votre...
On peut me retrouver un peu partout. Essentiellement sur Instagram, parce que c'est là où je travaille le plus. C'est là où j'ai formé le plus d'étudiants, justement, qui pouvaient avoir ou des problèmes financiers ou en tout cas des problèmes de confiance en eux et de pas savoir ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Donc c'est plutôt sur Instagram qu'on retrouve tout ce contenu. Je suis également présente sur TikTok évidemment, qui est les réseaux un peu à la mode, sur Facebook même si c'est un petit peu old, et puis j'ouvre également des canaux Telegram, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu la tendance du moment, donc notamment sur l'état d'esprit positif et comment mettre en place des actions au quotidien, et puis sur des conseils business pour les jeunes notamment. Donc voilà, on peut me retrouver un peu partout, mais surtout sur Instagram.
Génial. Et quel message aujourd'hui, Ophélie Denis, pouvez-vous leur donner? Quel message d'espérance pouvez-vous donner à toutes celles et ceux qui vous écoutent pour avancer?
Croire en vous, surtout, il y aura des moments très durs, mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Même après la plus longue nuit d'hiver, le soleil arrive toujours. » Et c'est vrai, on peut tous vivre des choses très compliquées, que ce soit personnel, des ruptures amoureuses, des ruptures amicales, que ce soit professionnel, des ruptures de choix, de plus savoir dans quelle direction on va, et je sais que ce monde est difficile. Et pourtant, il y a toujours une espérance à la fin. Cette espérance, on la trouve dans le fait de ne plus avoir peur, et ça, c'est quelque chose qui se travaille, dans le fait d'avoir confiance, de ne pas se sentir dans l'insécurité. Et acquérir de la confiance en soi, c'est avant tout se connaître, et quand vous vous connaissez, vous pourrez tout faire. Et puis, je crois que dans cette jeunesse, c'est important de le dire, on n'aura pas un métier, une vie, une route, on en aura énormément. Et donc, n'ayez pas peur de changer de voie, n'ayez pas peur de changer de métier, n'ayez pas peur de changer en cours de route, n'ayez pas peur de l'avis des autres, parce que finalement, ils sont parfois pas capables de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, juste, croyez en vous, allez-y, et je crois que le meilleur est à venir.
Les amis, croyez en vous, comme vient de nous dire notre amie Ophélie. Denis, Ophélie, un grand merci de m'avoir reçu. Et permettez-moi de terminer par une citation d'un philosophe qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup, de Kierkegaard, qui souligne « On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, on ne peut la vivre qu'en regardant en avant ». Je crois qu'Ophélie Denis, vous regardez la vie en avant. Merci pour ce moment et merci de vos encouragements et de nous permettre de croire en l'avenir et d'avancer sur ce chemin, parfois difficile, mais rempli d'espérance. Merci infiniment. Et ben voilà. Super.